La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour les amis. Voilà, c'est la seconde journée de la rencontre des entreprises de France, la REF, ici à l'Hippodrome de Longchamp. On les accompagne depuis maintenant presque 9 ans. On est heureux, très heureux d'être avec vous. Ça marque un petit peu la rentrée économique sous un climat, on va dire, un peu particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, un climat industriel, un climat économique, un peu incertain, car nous n'avons toujours pas d'indication sur ce que sera, comment sera composé le nouveau gouvernement. Vous êtes sur Radio Territoria et sur Radio Immo, la radio des élus et la radio de l'immobilier. Ça tombe bien, car nous avons un grand monsieur de l'immobilier qui est avec nous sur le plateau. Il est président de la FNAIM. C'est Loïc Quentin. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Loïc ?
Très bien, après un arrêt bien mérité.
Voilà, un arrêt bien mérité, absolument. Un été très chaud pour beaucoup. En tout cas, la rentrée s'annonce sous quels auspices quand on fait aujourd'hui la température ? Je voudrais qu'on fasse, vous et moi, si vous voulez bien, un point de rentrée sur comment se dessine le marché de l'immobilier résidentiel notamment, et également la raison pour laquelle vous êtes depuis plusieurs années partenaire ici avec le MEDEF et toujours dans l'espace logement avec la FNAIM.
Bah, tout d'abord, sur notre présence à la REF, elle date de longue date. Hein. Je crois que la FNAIM adhère depuis très longtemps au MEDEF et est un partenaire donc, au sein du stand d'action logement, tient également un stand et aime cette présence permettant de retrouver l'ensemble de l'écosystème et puis aussi le monde politique, bien que celui-ci soit moins présent à cette REF, compte tenu que je crois que l'instabilité, surtout l'incertitude de notre avenir politique qui règne, ne leur a pas permis de se déplacer ou de participer à des débats ou à des échanges comme on avait par le passé.
Alors, beaucoup de défis vous attendent, hein, Loïc Quentin, avec la Fédération. Vous avez beaucoup œuvré ces derniers temps, vous avez été très très présent sur tous les fronts pour défendre des propositions extrêmement concrètes. Il y avait un peu d'espoir début juin, avant le cataclysme des élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée. Est-ce que ces projets sont au calendrier grec, à l'arrêt ? Est-ce que vous espérez encore peut-être d'un futur gouvernement et comment vous l'imaginez ?
Alors, ce ne sont pas les propositions qui manquent, les solutions, je crois, à l'ensemble de l'écosystème, toutes les organisations professionnelles, même l'Alliance pour le logement, on a fait des propositions, il y a des solutions, simplement, c'est l'écoute, notamment des élus. Quand on voit le retard à la réaction dans l'écosystème politique, certains députés ont pris conscience de l'urgence à agir pour le logement, certes, mais lorsque l'on voit que Emmanuel Macron, le président de la République, a réagi très tardivement au mois de juin. Bruno Le Maire aussi, faisant son mea culpa lors des rencontres des candidats aux législatives.
Ça vous a pas fait sourire, ça, le mea culpa ?
Et ce matin encore, Gérald Darmanin qui dit, voilà, oui, quand on se bat pour le pouvoir d'achat, il faut aussi penser logement et nous n'avons pas tout fait pour le logement. Je dirais, nous n'avons surtout rien fait. Voilà, donc qu'il faut se rendre compte de ça. Et surtout, je dirais que les échéances à venir, avoir un Premier ministre, c'est bien. Peut-être aurons-nous un ministre pour le logement. Mais déjà, première des choses, on va demander à un ministre du logement en plein exercice, pas un ministre du logement délégué d'un autre ministère. La cause logement, elle est trop importante pour pouvoir être sacrifiée une nouvelle fois par une délégation ministérielle qui ne sera pas opérationnelle. Donc, on va exiger, là, immédiatement, avoir un ministre de plein droit. Deuxièmement, ce qui peut nous inquiéter, c'est qu'il va falloir encore refaire l'exercice. Ça fait le quatrième ministre
incroyable.
En 20 mois.
Incroyable.
Quatre ministres du logement. À chaque fois, il va falloir refaire les mêmes explications, essayer de comprendre. Et de grâce, si nous avions encore un ministre du logement technicien, moi je rêve qu'il y ait un ancien ministre du logement qui soit tout simplement ministre du logement, qui a déjà été en exercice pour reprendre les dossiers et ne pas être soumis à, je dirais, à un auto-apprentissage ou expliquer encore une fois de plus à lui-même et à son appareil ministériel comment fonctionne un marché et quelles sont les solutions à prendre, parce qu'on va encore perdre trop de temps. Je crois que l'urgence est là, mais cette crise, elle doit nous mettre en évidence que finalement, la politique du logement, elle est au-dessus des partis. La politique du logement, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Elle englobe toutes les sphères, je dirais, les composantes des Français. Que ce soit le parc social, le parc privé, l'accession, on doit satisfaire à tous ces besoins. Ce n'est pas une question, je dirais, de politique. Et j'espère que cette fois-ci, on ne peut pas accepter que le logement qui est d'urgence soit sacrifié sur l'autel de la discorde politique et de l'opportunisme politique.
C'est très clair.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas entendable. Ça mérite d'autres comportements. Voilà, donc je crois qu'il est temps. Et le cri d'alarme, il est là.
Les chiffres sont têtus. Et l'an dernier, c'était une catastrophe déjà à la rentrée 2023. On avait 12% des étudiants qui avaient renoncé à leurs études, vous savez, faute de logement. Presque 20% des contrats à durée indéterminée pas pu être signés par des entreprises faute de logement. Les indicateurs de la rentrée 2024 sont alarmants. Est-ce que vous confirmez la tendance? Et est-ce que finalement la pénurie finalement de logement est en train de s'accroître? Et la question qu'on se pose, Loïc Quentin, vous qui êtes un professionnel, c'est quand est-ce que la machine va repartir? Puisque vous êtes sur des cycles longs, sur des temporalités dans lesquelles est-ce qu'on peut réparer très concrètement la crise qui est en train de frapper durement l'immobilier depuis quasiment 2 ans?
Alors déjà, pour la réparer, il faudra avoir conscience de ses origines, ce qui n'est pas le cas. Savoir d'où elle est venue, cette crise. On ne l'a pas encore compris, quoi. Du moins...
Ouais. D'où vient cette crise?
La crise, elle est multifactorielle. On le sait, le déclencheur, le détonateur, a été uniquement la hausse des taux d'intérêt subis, mais simplement, c'est une accumulation d'une hyper-réglementation, une contraction de la fiscalité, hein, des déplacements moins attractifs, une absence d'accompagnement du primo-accédant, une absence, je dirais, de politique et de vision et de prospective à une échéance longue. On ne voit qu'à court terme sur la question de logement.
C'est des politiques délétères qui ont mené à ce
désastre. Vous voyez que ce qui était complètement aberrant, on a décidé de supprimer le Pinel à fin 2024. Jamais on aurait pu imaginer qu'un gouvernement puisse dire on supprime un dispositif fiscal qui permet de soutenir la construction neuve depuis 36 ans. La première loi de défiscalisation sur l'investissement locatif relève d'une loi de finances de 1988 et on n'a jamais trouvé d'autres dispositifs pour soutenir la construction neuve depuis cette échéance. Et on ne prévoit pas d'autres dispositifs en substitution, c'est-à-dire qu'on prépare l'agonie d'un marché et on ne sait plus construire, on ne sait plus faire du neuf aujourd'hui. Donc le problème, aujourd'hui dans les cabinets d'administration de biens, l'offre locative, elle a souffert d'une absence de production neuve qui n'était plus au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on voit dans les cabinets aussi? On se rend compte que l'année dernière, la baisse des préavis était de 14%, et cette année, sur 2 ans, elle est cumulée à 30%. Il y a 30% de rotation en moins sur le parc locatif. Cette offre locative, elle est contrainte parce que les locataires ont du mal à trouver d'autres logements.
Donc
ils se trouveront moins bien. On ne peut pas accéder à la propriété, on reste locataire. Puis aussi, on a une attrition de l'offre par une décision de vente pour cause de rénovation énergétique et puis aussi de cause d'une fiscalité et d'un poids fiscal trop important. Donc l'investissement locatif ne fait plus rêver en France. Il va falloir réveiller l'âme des Français et les amener, les orienter, les flécher vers de l'investissement locatif. Si on ne le fait pas, un marché ne peut pas se suffire de simples déclarations. Il faut un marché locatif privé fort, un marché locatif social fort. Et
mais pour qui investissement, Loïc Quentin, il faut restaurer de la confiance et
oui.
donner des signaux.
Bien sûr.
Fiscalement, oui. Ça devient confiscatoire. Techniquement, avec l'inflation normative qui pèse très lourdement sur les propriétaires, ça rogne leur pouvoir d'achat de propriétaires. Et donc, du coup, ça fait baisser les taux de rendement, parce qu'on est d'accord que l'investissement immobilier doit avoir un rendement minimum pour que ce soit valable. Mmh. Est-ce que vous craignez, vous, massivement, c'est déjà quelque chose qui s'est opéré, des désinvestissements des propriétaires qui finalement récupèrent leur appartement et ne relouront plus ou ne relouront pas, voire mieux, essaieront de mettre le bien sur le marché?
C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas.
On a des congés, des propriétaires qui décident de ne pas relouer. Et on n'a pas de nouveaux investisseurs qui ont suffisamment confiance dans le marché pour assurer le renouvellement du parc.
Ah oui.
Donc, il va falloir redonner de l'incitation.
Et c'est terrible pour les Français.
Repermettre aux Français dire que l'investissement immobilier est un placement sécuritaire.
Ouais.
Mais aujourd'hui, quand...
On imagine comment les Français perçoivent ce que vous dites, qui est terrible, qui était tellement vrai. On a des Français qui sont aujourd'hui encore plus mal logés qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans.
Oui, puis vous savez, c'est extrêmement pernicieux comme système. On ne voit pas tous les impacts. Vous parliez tout à l'heure des étudiants qui vont pas... Il y a des étudiants qui restent... On fabrique des tanguis chez les étudiants aujourd'hui parce qu'ils restent chez papa-maman pour faire leurs études dans la ville où ils habitent pour éviter d'aller dans notre territoire parce qu'on ne trouve pas de logement.
Absolument.
Hein?
Ah ouais.
Deuxième chose, regardez la natalité qui s'effondre. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est pas que les Français, les femmes françaises et les hommes français ne veulent pas avoir d'enfants, bien qu'ils ont plus souvent des chiens que des enfants, excusez-moi du terme, mais simplement aussi que la question logement, elle est cruciale. Quand on veut un enfant de plus, eh bien, il faut un logement plus grand. Et notamment, la mobilité et l'accompagnement des Français dans le changement de résidence, elle n'est pas permise dans un marché sous tension. On est sur un marché d'exception. Donc, on fabrique de l'exclusion en permanence. Donc, ce qu'il faut restaurer, c'est une offre suffisante, que ce soit en accession ou en locatif, et redonner de la confiance à l'ensemble des Français. La vraie contrainte aujourd'hui, et qui est une contrainte que nous ne connaissions pas sur les marchés précédents, elle est historique. C'est le fait que, aujourd'hui, les recettes de l'État sont exemptes. Les lois de finances dont on va, qui devraient être présentées avant le 1er octobre, la loi de finances risque d'être totalement absente de propositions nouvelles et de financements dégagés sur le logement. On croit même qu'on va grignoter encore un peu plus du budget logement, c'est-à-dire qu'il va encore fragiliser le marché. Donc on est à la recherche d'économie. Nous, on avait fait une proposition innovante, mais simplement le temps d'être entendu par les élus. Investissez aujourd'hui, défiscalisez demain, permettez à des Français de flécher vers l'investissement locatif. Oui. Vous détenez votre bien pendant 10 ans, vous payez vos charges, vos impôts, vous remboursez, et les 10 ans après, vous exonérez d'impôts sur les revenus locatifs. C'est merveilleux. Ça permet à un Français de se dire, je prends ma retraite.
Ça ne coûte pas si cher à l'État.
Non, pas si cher à l'État. Et simplement, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une véritable construction. On apporte des solutions. Toutes les solutions et les propositions que l'on fait, elles ne sont même pas relevées par l'appareil. Alors quand on voit un politique aujourd'hui qui dit on prend conscience que le logement est une urgence et pendant 18 mois on a réclamé sans cesse des rendez-vous, y compris avec Bruno Le Maire, j'en avais un la veille de la dissolution.
De 13 jours.
Voilà. Donc il faut du temps. Bon, on est syndicaliste, on est engagé, on défend la cause du logement pour les Français et on va continuer à œuvrer dans ce sens-là.
Vous êtes un leader syndical, Loïc Quentin, si demain par extraordinaire, il y avait un nouveau gouvernement qui vous appelle aux affaires, est-ce que vous iriez ?
Mes adhérents le décideront. C'est pas moi qui décide. Moi, j'ai une mission, j'ai un mandat, je suis élu. D'abord, je ne pense même pas à ça, et bon, voilà,
c'est pas envisageable. Non mais, ça s'est déjà vu par le passé, est-ce que vous accepteriez de rejoindre un gouvernement ?
La décision ne me revient pas, d'abord, avant tout, j'ai été élu pour être président de la FNM.
Alors, revenons sur les chiffres, si vous voulez bien, pour la dernière partie de cette émission. On a vu juste avant l'été, les taux directeurs de la BCE baissaient de 0,25% et cette tendance s'est accrue pendant l'été. Est-ce que, très concrètement et objectivement, sans faire de la méthode Coué, est-ce que vous, Loïc Quentin, vous pensez qu'on a des indicateurs réels de reprise ou pas ? Ou est-ce que les élections européennes, la dissolution, a mis à bas, finalement, le peu de confiance qui commençait à se restaurer ?
Je dirais que la baisse, oui, le quart de point de baisse du taux de la BCE, plus une prolongation avec une restauration des marges des banques, notamment pour octroyer des prêts immobiliers.
Ils se sont remis à prêter.
Oui, ils se sont remis à prêter, mais on attend quand même les statistiques. Je pense qu'à fin juin, la production de crédit immobilier était de 8,7 milliards. En janvier 2024, elle était de 10 milliards d'euros par mois. En période de croissance, elle est de 25 milliards.
Oui, c'est clair.
Déjà, premièrement, on pourra parler de relance lorsque, un, nous reprendrons des couleurs avec des volumes de transactions à la hausse, qui sont eux-mêmes corrélés à une production de crédit à l'EBITDA, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. On est en deçà de la production de janvier 2024. Donc oui, il y a un petit frémissement, un petit embellissement, je dirais plutôt un rattrapage qu'un redémarrage. Un rattrapage de périodes qui n'ont pas permis d'accompagner nombre d'accédants à la propriété ou d'investisseurs. Mais ce n'est pas un redémarrage. Le redémarrage, il faut savoir quand même que le pouvoir d'achat des Français n'est pas au rendez-vous pour leur permettre d'avoir une capacité de financement suffisante, quand bien même les taux baissent légèrement. Mais il faudrait une baisse de taux plus importante pour pouvoir restaurer la capacité d'emprunt des ménages français. La seule inconnue, c'est demain la loi de finances qui sera présentée et notre refinancement sur le marché. Vous savez qu'on emprunte 1 milliard tous les 2 jours. L'équivalent d'un porte-avions tous les 20 jours, je le dis souvent. Un porte-avions qu'on n'arrive même pas à financer, de 10 milliards.
C'est dingue. Hein.
Voilà, c'est ça la réalité.
Non mais ça fait peur.
Ça fait peur. Et le poids de la dette et le coût de la dette.
C'est ça qui fait peur aux Français. En fait.
Ça fait peur aux Français, il ne faut pas trop le dire non plus.
Vous avez évoqué le volume de transactions. Bon, ok. On va faire une petite rétrospective si vous voulez bien. En 2016, il y avait 830 000 transactions. Et on disait à l'époque, en 2016, c'est une très bonne performance. Ensuite, effectivement, le marché s'est porté naturellement, un marché à la hausse, pendant quasiment 10 ans, avec un atterrissage maxi à 1 200 000 quasiment transactions. Quel est l'atterrissage prévu cette année ? Ce sera environ de 820 000 850 000 transactions. Vous confirmez cette tendance ?
Ah non, 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 on est déjà à moins, on est déjà à 793 000.
Est-ce que ça,
on avait prévu une...
Est-ce que ce chiffre est un chiffre, finalement, qui est un chiffre, on va dire, en vitesse de croisière normale, ou est-ce que la potentialité, vous voyez ce que je veux dire, par rapport au loyer de l'argent qui était très peu ? Vous êtes, vous avez très longtemps, vous êtes dans l'immobilier, ça, vous êtes impliqué dans l'immobilier depuis plus de 40 ans. Vous avez vu des taux très élevés, vous, dans votre carrière. Mmh. Les taux qu'on pratique aujourd'hui, ce n'est pas des taux normaux. Est-ce que finalement, ce qui était anormal, n'était-il pas finalement les taux très très bas ?
Oui,
on achetait l'argent à 0,60.
Sylvain, il n'y a aucun problème. Les taux d'intérêt, même à 4%, même à 5%, même à 6%, ce n'est pas cher. Quand on projette un plan de financement pour un acquéreur et qu'on regarde la part des intérêts payés, c'est-à-dire qu'ils sont finalement une somme d'argent perdu, mais dans chaque échéance qu'on a des taux d'intérêt qui n'excèdent pas 6%, on a une part de capital qui représente 80%, 70 à 80% de l'échéance. Donc chaque mois, c'est une épargne cumulatrice et de capitalisation pour un ménage, plutôt que de distribuer et de laisser des fonds perdus entre les mains d'un propriétaire qui, lui, amortit, mais des sommes qu'on ne retrouve pas. Donc l'accession à la propriété, elle est toujours permise, et même à 5, à 6, à 7%, ce sont toujours des périodes porteuses. Moi, j'ai connu des périodes à 18%. Là, c'est quelque chose d'épouvantable. On remboursait trois fois le capital emprunté.
Oui, mais il n'y a pas la même inflation.
Il fallait attendre 5 ans avant de commencer à toucher au remboursement de capital sur une moindre mensualité. Mais ce qui veut dire, c'est qu'à 4, à 5, à 6, ce n'est pas le problème du taux. C'est le problème de la capacité d'emprunt. C'est le problème du niveau des prix qui, lui, n'est pas corrélé à la capacité des ménages.
Les prix n'ont pas baissé.
Ils ont baissé un petit peu.
Vous pouvez... Monsieur... En dehors du champ de caméra, il y a les caméras, voilà. Merci. Les aléas du direct.
Ils ont baissé, mais pas suffisamment encore. Il faut attendre encore une baisse de prix pour restaurer la capacité d'emprunt. Sauf s'il y avait une augmentation, je dirais, on peut recréer du pouvoir d'achat au ménage en augmentant les salaires ou en diminuant les taux d'intérêt. On n'aura pas de baisse des taux d'intérêt aujourd'hui, il ne faut pas y croire de façon très minime. On n'ira pas en dessous de 3% de taux d'intérêt. Je crois qu'on ne retrouvera jamais les périodes que nous avons connues, voire même à un moment, nous avions envisagé des taux d'intérêt négatifs. Bon, c'était complètement superflu et stupide.
Non, mais on peut comprendre, franchement, on peut comprendre les banques qui, à un moment donné, qui elles se refinancent sur le marché interbancaire, ne pouvaient pas plus longtemps prolonger l'exercice de travailler avec des marges nulles. Ou des marges négatives.
Oui, mais aujourd'hui, on ne travaille pas avec des marges nulles. Vous savez, quand on prêtait à 0,74% au plus bas des taux d'intérêt, ils avaient quand même une marge d'exploitation.
Oui.
Aujourd'hui, la marge, l'excédent brut sur leur marge est supérieur à 0,80. Hein, donc voilà, je crois que les marges sont restaurées.
Donc,
elles sont confortées aujourd'hui.
Vous ne vous inquiétez pas pour le monde bancaire.
Pas du tout. Et je vais ressortir mon refrain prochain.
Ouais.
Je suis toujours convaincu de la portabilité et de la transférabilité des prêts. Je vais repartir au combat.
Mais ça, c'est génial.
Avec un nouveau député. Je vais lui faire la proposition de loi. Vous savez que Damien Adam l'avait reprise, la proposition
Absolument.
De la Fédération. Guillaume Kasbarian n'était pas du tout contre, d'ailleurs.
D'accord.
Il a dit, on voit tout.
Et bon, il n'était pas contre grand-chose, mais il n'est pas resté longtemps.
Il n'est pas resté longtemps. Mais bon,
je crois que c'est le ministre le plus éphémère que l'on ait
oui, jamais... Oui, qui a été le moins efficace. Au moins, il a déclaré, montré une démarche de bonnes intentions et une volonté à bien
faire.
Mais
il faut des actes aujourd'hui.
Ouais,
c'est clair.
Mais donc, Damien Abdan n'a pas été réélu. Donc, la proposition de loi, elle est pendante, mais elle n'est plus portée. Donc,
Absolument.
Dans tous les cas, on va tout faire pour retrouver quelqu'un.
Vous avez a priori choisi, on ne dira pas son nom, parce que lorsque ce sera fait, vous le direz, quelqu'un qui a quand même, c'est son cinquième mandat.
Hein, ouais.
Voilà, 5 mandats de député. Voilà, il a été en son temps l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée. Dernière question. Ces échéances sont quand même très fortes. Je vois qu'on parle des adhérents. Toute une industrie a été mise à genoux dans la promotion immobilière, dans une partie de l'aménagement du territoire. Je ne vais pas vous redonner les chiffres des promoteurs qui ont jeté l'éponge, mais c'est absolument ahurissant. Est-ce que du côté des agences immobilières, des opérateurs immobiliers qui sont adhérents chez vous, vous constatez malheureusement, tristement, des défaillances en cascade qu'on a vu quand même arriver au premier trimestre 2024 et qui s'est confirmée au second trimestre 2024. Est-ce que cette tendance est enrayée ou est-ce que vous êtes encore inquiet pour vos adhérents ?
Je ne vais pas faire de l'angélisme. Il faut être réaliste. Et la réalité, c'est que, bien évidemment, le niveau de nos activités est lié au volume des transactions et à la dynamique de ce marché. On a perdu des agences immobilières. Le niveau des liquidations judiciaires, tout confondu, c'est 1250 liquidations judiciaires depuis le début de cette crise. On n'a pas atteint le seuil de la crise des subprimes qui était à 1390 liquidations judiciaires. Mais dans tous les cas, on est rentré sur un processus notamment de fragilisation des structures les plus récentes, ceux qui se sont créés de façon la plus récente ou qui ne sont pas multi-activités. Donc oui, notre filière est extrêmement fragilisée. Voilà pourquoi à l'FNM, on a mis en place une structure d'entraide sous le nom Agir pour pouvoir venir au secours de nos adhérents. C'est une vraie question, y compris même pour notre fédération. Nous perdons des adhérents. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Et il n'y a même pas un réseau aujourd'hui en France qui peut se dire on maintient nos effectifs. Oui, nous perdons tous des adhérents, nous perdons des franchisés, nous perdons des entreprises au quotidien et nous perdons aussi de l'emploi, nous perdons des salariés. Mais je dirais que le marché de l'existant souffre moins que le marché du neuf. Moi, je pense à tous ceux qui font de la maison individuelle, des sociétés qui installent depuis 30 ans,
bien
qui
sûr,
aujourd'hui sont au bord du redressement de la liquidation judiciaire par une absence, je dirais, de vision d'une politique de la construction qui était indispensable et pour laquelle on ne voit pas sur soi de nouvelles mesures arriver. Donc là, je les plains plus. Nous, encore, dans le marché de l'existant, nous sommes des modérateurs, nous sommes des négociateurs. Nous sommes là pour faire de l'arbitrage patrimonial et nous avons faire convaincre, lier les intérêts d'un vendeur et d'un acheteur quand dans le neuf, on ne peut pas, on a un prix contraint qu'on ne peut pas faire baisser. Le marché, nous, est plus agile que d'autres. C'est à nous, en tant que fédération, d'accompagner les adhérents et de trouver les bonnes propositions pour les accompagner.
Merci beaucoup, Loïc Quentin.
Merci,
je vous retrouverai très bientôt, d'ailleurs, avec la rentrée de Sud Radio courant septembre, justement avec tous ces mouvements de rentrée, en souhaitant que le prochain gouvernement, comme vous le dites, sera équipé, armé pour justement, ou réarmé, comme dirait notre cher président, pour aborder la politique du logement. Merci Loïc Quentin, président de la FNAIM. Il est quasiment 11h, nous allons recevoir bientôt nos amis d'Arkéa Banque et institutionnels qui vont arriver sur le plateau, ainsi que le président de la Fédération française du bâtiment, qui vont se succéder. On est avec vous pour cette seconde journée de la rencontre des entreprises de France. On se retrouve tout de suite après ça.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.